Bon. Je voudrais à mon tour remercier le banquet de me donner l'occasion de vous parler de la Révolution française, un objet qui a été récusé en doute très longtemps. Le mot révolution lui-même avait connu une forte dévaluation et les événements récents ont remis, je dirais, en selle la notion et permettent de l'interroger à nouveau frais et de réinterroger à nouveau frais tout événement qui pourrait porter ce nom de révolution. Je ne vais pas vous parler de la révolution en général, mais vous parler plus précisément de textes qui sont des textes de Saint-Just. On est là dans un banquet du livre. Il se trouve qu'il y a les œuvres complètes de Saint-Just qui existent chez Gallimard. C'est un travail important que d'avoir collecté ces textes et ça me paraît important de savoir que voilà l'œuvre de Saint-Just, c'est ce volume et que traverser ce volume, c'est un peu dans une certaine mesure comme traverser la critique de la raison dialectique, c'est essayer de démêler ce qui a pu se passer dans la tête d'un sujet qui était confronté d'une manière très précise à la réalité des événements et qui essayait de produire une philosophie de la situation alors qu'effectivement il butait à chaque instant sur ce qui résistait dans ce moment révolutionnaire et sur ce que Sartre effectivement aurait appelé une praxis politique. Il y a beaucoup de ponts et j'ai essayé d'être attentive le plus possible aux différentes conférences qui ont eu lieu jusqu'à maintenant sur la communauté. Il y a beaucoup de ponts qui peuvent être faits effectivement avec les conférences précédentes et je m'efforcerai de les rendre audibles, de les rendre sensibles, tout en faisant entendre donc le texte de Saint-Just et j'essaierai de le citer le plus possible, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une lecture, et de faire entendre effectivement qu'il s'agit à la fois d'un auteur et d'un acteur qui est confronté à ce que je peux appeler la ligne brisée des utopies, c'est-à-dire à une double valence de l'écriture, où à la fois on cherche à inventer un monde dans l'écrit même, mais où on le confronte effectivement à des pratiques politiques, et où effectivement la ligne utopique se brise, mais où il s'agit de se relever. Et il s'agit bien, dans ce que je vais vous proposer aujourd'hui, sur cette question de la communauté des affections, de faire entendre comment cette ligne brisée suppose à la fois effort, courage, mais suppose également inquiétude et moments de découragement, et d'entendre qu'il y a bien une scansion sur la possibilité de poursuivre le travail lorsqu'on est effectivement Saint-Just, qu'on a commencé à réfléchir dès 1790 sur l'événement révolutionnaire qu'on était en train de vivre et qu'on a été confronté tout au long de sa vie politique à des désaffections, à des déceptions, à des difficultés, à des échecs. Et c'est bien dans cette inquiétude de l'échec que s'inscrit l'énoncé « communauté des affections » qui apparaît dans le troisième fragment des institutions républicaines. Ces institutions républicaines ont la réputation d'être un texte assez obscur, assez difficile justement parce qu'il s'agit de fragments et pas d'un texte continu. Et pour autant, c'est un texte qui a fasciné et qui a permis effectivement de faire connaître Saint-Just. Certains énoncés sont ceux qui ont résonné longtemps, même si ce ne sont pas bien sûr les seuls, et que plein d'énoncés des textes politiques de Saint-Just résonnent également. Et quand on lit les deux ensemble, c'est-à-dire à la fois les textes théoriques de Saint-Just, il s'agit donc de ces fragments d'institutions républicaines, et d'un texte qui s'appelle « De la nature » qui est plus précoce et qui date de 1792, quand les fragments peuvent être datés, si l'on veut, entre 1792 et 1794, avec une ligne de pessimisme qui s'accroît, bien quand on lit ces deux textes, on se rend compte effectivement qu'il y a un va-et-vient constant entre les enjeux théoriques et les enjeux politiques, et que Saint-Just puise, dans une certaine mesure, sur ces notes de fragments d'institutions républicaines ou sur ces notes de textes qui s'intitulent « De la nature » pour pouvoir produire ces textes politiques. De ce point de vue-là, on est bien du côté du Sartre de la critique de la raison dialectique, non pas du côté de la manière dont il théorise la communauté, mais du côté dont il affirme que faire de l'histoire n'a de sens que si c'est pour se donner nos propres lumières. Et donc, effectivement, je souhaite, avec Saint-Just, tenter, sur cette question de la communauté, de nous donner des lumières. Même si le texte résiste, il me semble qu'il y a la possibilité d'entendre, en résonance, des questions qui sont nos questions. Questions, bien sûr, liées à l'actualité que j'évoquais tout à l'heure, mais questions qui sont aussi des questions récurrentes de la politique, car il s'agit bien de politique aujourd'hui. Questions répétitives, aurait dit Nicole Laureau, questions récurrentes qui sont celles qui pose la question de la liberté politique. Qu'est-ce que c'est? En quoi diffère-t-elle de la liberté privée? Qu'est-ce que la corruption? Et on en a entendu beaucoup parler cette année dans notre pays. Qu'est-ce qu'une loi? Qu'est-ce qu'un peuple? La vertu publique est-elle un mirage? Peut-on faire avorter une révolution? Et là, on est effectivement dans l'actualité la plus brûlante avec ce qui se passe dans les pays dits du printemps arabe, où effectivement, assassiner des hommes de bien peut être une procédure qui fasse avorter des révolutions. Et c'est une inquiétude qui habite Saint-Just en 1794 de manière forte, non pas d'une manière simplement fantasmatique, mais parce qu'effectivement, l'assassinat politique est bien une manière de faire cesser toute politique. Comment réformer les mœurs, ou dans le vocabulaire des historiens des années 70 qu'on a évoqué ce matin avec Patrick Boucheron, comment déplacer les mentalités? Bien sûr, évoquer toutes ces questions n'empêche pas l'étrangeté, je dirais, de Saint-Just de demeurer. Et je voudrais évoquer des énoncés de Dionys Mascolo, ne serait-ce que pour faire écho, effectivement, à ce qui nous a été dit sur une certaine manière de concevoir l'amitié et sur le fait que ce Dionys Mascolo a eu le désir intense de faire connaître Saint-Just, de l'éditer, et où il affirmait que c'est en restituant ce que la figure de Saint-Just a d'irréductible, d'impossible à nos yeux, que nous avons des chances de finir par vivre à son niveau, de guérir de notre domesticité nous-mêmes. Domesticité avec la pluralité des sens qui s'adresse avec ce terme. J'en viens maintenant au contexte, le contexte de cet énoncé communauté des affections qui apparaît donc dans le troisième fragment de l'Institution républicaine et qui sont un moment relativement tragique en fait de la période révolutionnaire. On est dans un moment où, alors que Saint-Just était extrêmement optimiste en 1792, c'est-à-dire au moment du procès du roi, où il débute dans la vie politique, où il se fait connaître par le procès du roi en affirmant qu'il faut juger le roi en étranger, en bête féroce, et qu'il ne faut pas lui attribuer le statut de citoyen, mais considérer qu'il est bien en dehors de cette communauté civique. Eh bien, au moment de ce procès du roi, en fait, Saint-Just est assez optimiste et il écrit effectivement le texte de la nature. Et il pense qu'on va pouvoir, effectivement, dans un pays comme la France en révolution, réformer les mœurs, réformer le régime de la politique et pouvoir, effectivement, inventer un monde tout autre. En 1793 et en 1794, et en particulier au moment de la lutte des factions, je ne sais pas bien où on en est aujourd'hui sur les savoirs sur la Révolution, donc je vais un peu expliquer ce que c'est que la lutte des factions. Je pense que tout le monde a entendu parler de la terreur, avec des énoncés souvent très effrayants, avec ce qu'on pourrait appeler de l'effroi rétrospectif. Mais la lutte des factions est sans doute ce qui a laissé le plus d'effroi rétrospectif, puisqu'il s'agit d'une part de ce qu'on a appelé l'élimination de la faction hébertiste, de l'arrestation donc des hébertistes, et de leur exécution, dans un premier temps en Ventose, puis ensuite de l'exécution de Danton et de la faction dite dantoniste en Germinal. Cette exécution, cette terreur à l'œuvre, a laissé des traces extrêmement douloureuses dans l'espace public français, et parisien en particulier, car effectivement ces figures politiques étaient des figures absolument proches du mouvement populaire révolutionnaire, et que la politique menée par les comités d'assemblée, comités de salut public et comités de sûreté générale, n'ont pas été comprises, et qu'il y a donc quelque chose qui s'est affaissé dans la possibilité de croire dans le mouvement révolutionnaire. Le 26 Germinal en 2, donc peu de temps après l'exécution de Danton, Saint-Just prononce un très grand discours, qui s'appelle discours de police générale. Il faut entendre police comme la manière de policer, de produire une société, où il affirme « ceux qui survivent aux grands crimes sont condamnés à les réparer ». Ceux qui survivent aux grands crimes sont condamnés à les réparer. Et dans cet énoncé lui-même, eh bien, on ne sait pas exactement de quel grand crime il s'agit. Il s'agit bien sûr des crimes des factions elles-mêmes, en tant qu'elles ont voulu se séparer en termes d'intérêt, et j'y reviendrai, de l'intérêt général, mais il s'agit aussi du crime de ne pas avoir réussi en tant que révolutionnaire à avoir retenu la violence, retenu la cruauté, qui était pourtant l'une des visées importantes et qui reste l'une des visées importantes de l'ensemble des révolutionnaires dits radicaux, et en particulier, j'y reviendrai également, un des enjeux importants de Saint-Just, qui souhaite que que la liberté soit une liberté comme non-domination et qu'il n'y ait donc pas de rapport de force dans une société qui serait une société harmonieuse. C'est donc face à ce désir d'une société qui serait une société finalement sans rapport de force, une société de liberté, d'indépendance, que finalement la lutte des factions a entamé aussi bien ceux qui ont été exécutés que ceux qui ont exécuté, donc réparer les grands crimes. Le jour où je me serai convaincue qu'il est impossible de donner au peuple français des mœurs douces, énergiques, sensibles et inexorables pour la tyrannie, je me poignarderai. On est là dans une position où Saint-Just, peu de temps après ce 26 Germinal en 2, ne croit plus même qu'il est possible d'obtenir ces mœurs douces et qui permettent d'avoir une société harmonieuse, et imagine que la seule solution est effectivement celle du sacrifice de soi. Donc il y a là quelque chose, je vous disais tout à l'heure, de tragique, et effectivement cette tragédie est celle où la terreur a blasé le crime, comme les liqueurs fortes blasent le palais. Dans la conception sensualiste du moment, seule la sensibilité donne une faculté de juger. Et lorsqu'on dit que la terreur a blasé le crime, eh bien on dit que l'ensemble de la société a été commotionné au point de ne plus avoir de capacité à juger des situations, à juger d'une manière sensible des situations. Or ce point est particulièrement important car il est au fondement de ce qui permet de croire qu'une société républicanisée peut se maintenir grâce à la vigilance de l'ensemble de ses citoyens. L'ensemble de ses citoyens qui donc doit être finalement une série de veilleurs et qui doivent exprimer leur désaccord lorsqu'ils ont le sentiment que les lois sont oppressives. La résistance à l'oppression fait partie de l'article 2 de la déclaration de 1789. Pour rédiger cet article 2, il y a eu toutes sortes de préparations. Je ne vais pas vous déployer l'ensemble de ces préparations, mais ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est la manière dont Seyès, qui ne sera pas quelqu'un de particulièrement radical un peu plus tard, mais qui à ce moment-là l'est quand même d'une manière assez intéressante, explique d'où vient ce droit de résistance à l'oppression. Et il affirme que chacun sent dans son corps s'il est ou non opprimé. Et que donc, on a un savoir intime sur la question de l'oppression vécue, expérimentée. C'est un savoir d'expérience. Et que ce savoir d'expérience oblige l'individu envers lui-même. Et donc il y a quelque chose qui a partie liée avec ce qu'on pourrait appeler un amour de soi anthropologique, qui fait que quand on se sent opprimé, on a le devoir envers soi-même de résister à l'oppression. Et il ajoute quelque chose d'extrêmement important, il ajoute que lorsque il y a oppression, c'est-à-dire qu'il y a rapport de domination et de force sur une personne ou sur un groupe, cela ne produit jamais du droit, et on s'écarte de ce point de vue-là de Schmitt, par exemple, dont on a entendu aussi parler récemment, mais que par contre, la violence qui peut résulter de la résistance à l'oppression en produit toujours. Donc ce que l'on sent, c'est fondamental, à la fois pour être capable d'être un bon veilleur, pour protéger les droits de l'homme, la cité et l'ensemble de la nouveauté politique qui est en train d'advenir. Et c'est important pour produire des lois justes. Si on n'est pas capable de distinguer entre des lois émancipatrices et des lois oppressives, alors le mot « loi » va devenir un fétiche, et au lieu de pouvoir être dans un rapport aux lois qui soit un rapport de souveraineté et de souveraineté populaire, on sera à nouveau dans un rapport d'obéissance simple. Et que cette obéissance simple est loin de l'émancipation, loin de la liberté, et qu'en conséquence, dénaturer la sensibilité d'un peuple ou l'avoir commotionné au point qu'il en a perdu sa capacité à avoir ses compétences sensibles, c'est effectivement détruire ce que Saint-Just appelle les fondements de la République. Je le cite, « Une République ne peut reposer que sur la liberté et la vertu, sur les mœurs et la nature. » Donc, effectivement, blaser le crime par la terreur, c'est prendre le risque de ne plus avoir de veilleurs, de ne plus avoir de capacité à résister à l'oppression. C'est pourquoi un gouvernement républicain, parce qu'il repose sur cette question de la résistance à l'oppression, doit avoir la vertu pour principe, sinon la terreur. Il s'agit de faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de corrompre, au sens de dénaturer, la sensibilité naturelle. Vous connaissez tous l'énoncé de Saint-Just, je pense, que veulent ceux qui ne veulent ni vertu ni terreur. Or, cette question était apparue justement à la veille de l'élimination des factions, à la veille de l'élimination d'Hébert et de Danton. Une société dont les rapports politiques ne sont point dans la nature, où l'intérêt et l'avarice sont les ressorts de beaucoup d'hommes que l'opinion contrarie, et qui s'efforcent de tout corrompre pour échapper à la justice, une telle société ne doit-elle point faire de plus grands efforts pour s'épurer si elle veut se maintenir ? Et ceux qui veulent l'empêcher de s'épurer, ne vont-ils pas la corrompre ? Et ceux qui veulent la corrompre, ne veulent-ils pas la détruire ? Et Saint-Just met alors l'accent non seulement sur la fragilité, mais sur la chute possible du moment révolutionnaire. Je le cite encore, « On parle de la hauteur de la révolution. Qui la fixera, cette hauteur ? Elle est mobile. Il fut des peuples libres qui tombèrent de plus haut. » Et c'est dans ce voisinage de la grandeur et de la chute, eh bien, que cet énoncé communauté des affections, qui voisine aussi l'affirmation qu'il faut former des institutions civiles, des institutions auxquelles on n'a point pensé encore, il n'y a point de liberté durable sans elles, elles soutiennent l'amour de la patrie, l'esprit révolutionnaire, même quand la révolution est passée, eh bien, c'est dans ce contexte, effectivement, qu'apparaît la communauté des affections. Elle a alors une double valence, cette communauté des affections. Elle doit être l'outil qui va permettre de réparer les grands crimes, et elle va être aussi l'espace utopique de quelque chose qu'il faut maintenir, coûte que coûte, avec malgré tout un pessimisme qui oblige à l'effort permanent et qui oblige à ne pas donc se décourager. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de l'énoncé exact et où apparaît, dans quel paragraphe apparaît cet énoncé communauté des affections ? Je dirais que ce syntagme figé apparaît au titre de la patrie. On pourrait dire que l'énigme de la communauté des affections chez Saint-Just est l'énigme de la patrie. Je le cite. « La patrie n'est point le sol, elle est la communauté des affections, qui fait que chacun, combattant pour le salut ou la liberté de ce qui lui est cher, la patrie se trouve défendue. Si chacun sort de sa chaumière, son fusil à la main, la patrie est bientôt sauvée. Chacun combat pour ceux qu'il aime, ceux c'est eux, voilà ce qui s'appelle parler de bonne foi. Combattre pour tous n'est que la conséquence. » Je pense que dans un paragraphe comme celui-là, il y a plusieurs choses qui sont à souligner d'emblée. La première chose, c'est une opposition affirmée à laquelle tient constamment Saint-Just, qui est l'opposition entre territorialité, le sol, et coalescence humaine. Dans une certaine mesure, il n'y a pas chez Saint-Just de patrie des petits terroirs. Il n'y a pas de territorialité de la patrie. C'est autre chose. Deuxième chose, le chacun, hein, chacun sort de sa chaumière, le chacun préexiste au tous, et ce qui fonde la possibilité du tous, c'est bien ce chacun. Et je crois qu'on a entendu ça d'une manière absolument récurrente dans chacune des conférences qui ont été données sur la communauté, qui permettent de sortir d'un imaginaire de la communauté qui serait un imaginaire fusionnel, le fameux imaginaire du « un » qui produirait un lien unaire et qui serait effectivement le lien totalitaire. On voit bien qu'il peut y avoir une pensée de la communauté qui est au contraire une pensée de la pulsation, à savoir quelle pulsation, entre le chacun et le tous. Enfin, troisième point, et je vais m'arrêter plus longuement sur celui-là pour le moment, une coalescence qui repose sur l'amour, mais pas l'amour de ceux CEUX, mais comme je disais, l'amour CE, ce qui lui est cher, amour de choses, comme la chaumière par exemple, de possession, mais peut-être aussi amour immatériel, et il faut rentrer plus avant sur ce qu'entend Saint-Just par patrie, pour comprendre ce que c'est que défendre ce qui nous est cher, ce qui leur est cher, ce qui est cher à chacun, et qui permet de combattre pour tous. Cette question de la patrie, et cet énoncé patrie, est devenu extrêmement difficile à entendre aujourd'hui. Il renvoie à, dans la plupart des imaginaires politisés, à quelque chose de réactionnaire. Et donc quand on essaye de travailler sur la patrie, je crois que la première chose à faire, c'est peut-être la déprotection évoquée par Marielle Massé. En tout cas, il faut se déprendre de nos habitudes sur la patrie. Cette question de la patrie intéresse Saint-Just dès 91, quand il écrit « L'esprit de la Révolution et de la Constitution ». Il n'est pas du tout connu à ce moment-là et son texte n'est pas vraiment extrêmement lu à ce moment-là. Saint-Just affirme « Où il n'est point de loi, il n'est point de patrie. C'est pourquoi les peuples qui vivent sous le despotisme n'en ont point, si ce n'est qu'ils méprisent ou haïssent les autres nations. Autrement dit, la patrie comme haine de l'autre, c'est quelque chose qui a à voir pour Saint-Just avec le despotisme. Où il est des lois, il n'est quelquefois point de patrie, si ce n'est la fortune publique. Mais il en est une véritable, qui est l'orgueil de la liberté et de la vertu. C'est de son sein qu'on voit sortir ces hommes, chez qui l'amour des lois semble être le feu du ciel. L'amour des lois, il me semble qu'il faut s'arrêter effectivement sur cette question. Qu'est-ce que la patrie, sinon l'amour des lois et l'orgueil de cet amour qui produit la liberté et la vertu? On est obligé, quand on parle d'amour des lois, je crois, de repasser par la tradition théologique. Parler d'amour des lois, c'est parler de liens. D'abord des liens qu'il y a à Dieu en tant que Dieu produit les lois, mais aussi des liens qui découlent de cet amour consolidé parce qu'il vient l'étayer, les liens aux lois comme telles. Enfin, des liens qui découlent de l'existence même des lois en tant qu'elles lient les hommes entre eux. Et donc, on voit bien que, un peu comme dans la traduction freudienne postérieure, on a ce lien d'amour qui produit la société dans une verticalité vers Dieu, dans une verticalité vers la loi, mais aussi suite à cette verticalité entre les hommes qui aiment les mêmes lois. C'est pour aimer un même objet que les hommes font lien entre eux. Aimer les lois, ce serait aimer les objets qui permettent de faire lien dans une relation verticale puis horizontale. Processus d'identification quand il s'agit de la monarchie absolue. La loi, c'est moi, disait le roi. Mais comment le peuple souverain peut-il dire « les lois, c'est nous » ? Qu'est-ce qu'il en est de la possibilité d'un tel énoncé ? Or, chez Saint-Just, cette question est cruciale et il y réfléchit de ce fait, non pas simplement en termes de bonne représentation qui fabriquerait ce lien vertical, mais il y réfléchit en termes de bon espace de délibération qui seul fabrique un lien horizontal. Qui alors, et c'est là où il y a quelque chose de tout à fait singulier chez Saint-Just, ce n'est pas l'amour vertical pour des lois ou pour Dieu qui produirait la possibilité d'être en lien, mais d'abord la production de ce lien horizontal par la délibération qui rendrait possible le lien aux lois sans que ce lien soit un lien d'obéissance, mais soit bien le lien d'un amour de soi qui se serait déployé dans cette délibération. De ce point de vue, dans la période 91-92, la confiance de Saint-Just envers les lois est assez grande, voire totale. Or, il se trouve que en 1794, eh bien, il considère qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cet amour des lois. Et il affirme, je le cite, « Il y a trop de lois, trop peu d'institutions civiles. Obéir aux lois, ce n'est pas clair. Car la loi n'est souvent autre chose que la volonté de celui qui l'impose. On a le droit de résister aux lois oppressives. » Et donc, pour pouvoir s'identifier aux lois qui sont adoptées par le pouvoir législatif, il faudrait aussi être capable de les récuser. Et on revient sur cette question de la capacité à distinguer entre le juste et l'injuste, entre l'oppressif et l'émancipateur, par sa sensibilité. On verra que cette sensibilité, dans un premier temps, Saint-Just pense qu'elle est naturelle, et puis dans un deuxième temps, il pense eh bien, qu'elle ne peut pas être naturelle, qu'il va falloir la produire, qu'il va falloir en tout cas la réinventer, et que le rôle des institutions civiles, c'est justement de réinventer cette capacité sensible d'une manière qui serait quasi naturelle, quasi instinctive, si on prend le mot de Robespierre, qui bien sûr est très proche de Saint-Just. Il n'empêche qu'avant de douter des lois, il y a une pensée très ferme sur la manière dont il faut agir pour avoir de bonnes lois. Et il réfléchit donc sur cette question cruciale, quel est l'espace de délibération nécessaire pour que les lois, ce soit nous. Et il affirme, en particulier dans le débat constitutionnel de 1793, eh bien qu'il faut réfléchir au mode de division du royaume, puisqu'on sait que la République ou la démocratie eh bien, n'est pas possible effectivement dans une arène de 30 millions d'habitants ou de 25 millions d'habitants. Et donc il n'y a pas de possibilité de délibérer tous ensemble. Et donc il va falloir réfléchir à la manière dont on doit sectionner le souverain de manière à ce qu'il puisse effectivement opérer son action de souveraineté nationale. Or, que dit Saint-Just dans ce contexte ? Il affirme que la souveraineté de la nation réside dans les communes. Évidemment, commune, ce n'est pas tout à fait communauté. Mais il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant. Bien sûr, commune a une histoire longue, une histoire évidemment au XIXe siècle que tout le monde a, non pas connaît, mais en tout cas qui résonne. Et cette affaire de commune, eh bien, c'est un point très important parce que pour Saint-Just, commune, ça renvoie au pouvoir, d'une part, législatif. Et ce pouvoir législatif, c'est l'art de délibérer pour préparer des lois, mais c'est également l'art de délibérer pour censurer les mauvaises lois. Et donc, il y a une compétence sensible qui doit conduire à la censure des mauvaises lois. Le droit de résistance à l'oppression serait une chimère s'il n'y avait pas de lieu possible pour pouvoir dire qu'il y a nécessité de résister à l'oppression. Et pour Saint-Just, il y a encore la possibilité d'imaginer que si des assemblées communales sont capables de dire « cette loi est oppressive, on souhaite qu'elle soit changée », eh bien que l'Assemblée législative, en l'occurrence la Convention à ce moment-là, soit capable de les entendre, et effectivement que cette souveraineté de la nation qui réside dans les communes ne soit pas un vain mot, mais que la représentation soit effectivement capable de traduire eh bien, ce désir de résistance à l'oppression. Le débat est intense en 1793. En effet, Condorcet considère qu'il faut savoir quelle forme prendra la résistance à l'oppression. Robespierre affirme que vouloir assujettir la résistance à l'oppression à des formes préétablies serait le dernier raffinement de la tyrannie. C'est extrêmement intéressant parce qu'on voit qu'il y a d'un côté le désir d'avoir effectivement des formes réglées qui permettent de ne pas être acculé à la violence, mais aussi de laisser ouverte la possibilité ou la nécessité parfois d'être acculé à cette violence. Ce que Saint-Just souhaite, c'est qu'on n'en ait pas besoin. Et donc il affirme qu'effectivement, la commune sera le lieu qui permettra de résister à l'oppression, de censurer les mauvaises lois et de produire effectivement ce qu'on appellera les assemblées primaires, c'est-à-dire à la fois celles où on délibère, celles où on élit les représentants et celles où on censure les mauvaises lois, donc un espace où on va débattre de la loi. Ça suppose de considérer que le métier de citoyen suppose certaines compétences délibératives et prend du temps. Et donc c'est quelque chose, on va y revenir, et là il s'agit bien, en écho à ce que nous a dit Marielle Massé, de communautés rythmiques qui acceptent effectivement de se mettre au même rythme pour pouvoir faire de la politique en étant dans une position où ils n'obéiraient pas à un pouvoir qui serait le pouvoir exécutif. Et de ce point de vue-là, Saint-Just, d'une manière extrêmement intéressante, ferraille avec le pouvoir exécutif et affirme qu'en fait, il faut savoir se passer du pouvoir exécutif et il espère pouvoir se débarrasser des départements. Il affirme, le département, qu'est-ce que c'est? C'est une autorité qui sert à rien. Il n'y a pas d'assemblée primaire au niveau du département. C'est un simple rouage du pouvoir exécutif. Et ce rouage du pouvoir exécutif confond le territoire à nouveau et la civilité humaine. La civilité humaine, elle est au niveau des communes, il ne se passe rien au niveau du département, mais ces départements vont disposer d'un pouvoir tel qu'ils vont avoir le désir de s'autonomiser du souverain. Or, dit-il, le territoire est sous la garantie de la protection du souverain, il est indivisible comme lui. Et donc, il considère que départementaliser, c'est diviser le territoire et diviser le souverain alors qu'il ne devrait jamais être divisé. Et donc, il affirme, les administrations de département doivent être supprimées pour y affaiblir le goût de l'indépendance administrative et exécutive. Il n'est pas vraiment entendu en 1793. Comme vous savez, on ne s'est toujours pas débarrassé des départements. Et donc, il revient à la charge, dans l'idée qu'il y a nécessité de à nouveau faire entendre que parler de département et de canton, je le cite, c'est parler de dénominations qui appartiennent à la terre, au lieu de celles de communes qui désignent les hommes. Et après avoir marqué la division de la République par la distribution du territoire et des autorités, au lieu de les marquer essentiellement par la distribution des citoyens et des suffrages, on vous propose aujourd'hui de distribuer la population dans des juridictions municipales. Et là, dans une certaine mesure, il se fâche. Il n'y a point de division essentiellement administrative dans une République. C'est pourquoi, à la dénomination de municipalité vide de sens en République, je souhaite qu'on substitue celle de conseil de communauté. Cette dénomination seule avertit les citoyens que ce conseil n'a point d'attribution hors des relations qui concernent la communauté, de leurs relations, dit-il, privées. Et il insiste sur privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fois la commune est le lieu de délibération, d'élection, de censure, pour penser le rapport à la loi nationale. Et donc, ce n'est pas un échelon local, c'est un échelon technique. C'est un espace, et il va être très précis sur cet espace, il va affirmer qu'il ne faut pas plus de 600 à 800 personnes par commune. 600 à 800 personnes, au-delà, on ne peut plus délibérer. Et il affirme que le pouvoir local, qui est vraiment local, est un pouvoir quasi privé, indépendant, d'une communauté indépendante, et qui a pour fonction ce qu'on appellerait l'autogestion. Et il va affirmer, voilà, l'administration municipale est une administration populaire, paternelle et domestique. C'est le peuple en famille qui régit ses affaires. Et il ne faut pas diviser ses amis, donc il ne faut pas diviser ses assemblées de communautés. La communauté d'habitants chez Saint-Just est donc bien une communauté qu'il ne faut pas diviser comme on ne divise pas les amis, donc une communauté d'amis. À ce titre, c'est déjà une communauté des affections. Une communauté de citoyens amis qui aiment les lois qu'ils se sont données, les protègent de leur vigilance, inventent leur mode de vie indépendant localement. Or, justement, cet imaginaire a été mis à mal par la lutte des factions puis par la terreur. Pour de multiples raisons, eh bien, en fait, les communautés ont été effectivement autogestionnaires localement, mais comme elles n'avaient plus la possibilité de faire remonter, à proprement parler, ce qu'elles estimaient nécessaire de censurer dans le travail législatif, eh bien, elles se sont autonomisées. Ce que Saint-Just craignait pour les départements s'est développé de manière beaucoup plus large. Et il affirme qu'on mette de la différence entre être libre, indépendant, et se déclarer indépendant pour faire le mal. De fait, on a ainsi corrompu les mœurs, et Saint-Just appelle cela le fédéralisme civil. Un fédéralisme où chaque commune s'isole d'intérêt. Dit-il, c'est ce qui arrive en ce moment. Chacun retient ses denrées dans son territoire. Toutes les productions se consomment sur le sol. Il faut empêcher que chacun s'isole de fait. Et le 23 Ventose, il affirme l'immoralité, au sens de cette incapacité à être dans l'intérêt général, mais être juste dans l'intérêt local, est un fédéralisme dans l'état civil. Par elle, chacun sacrifierait à soi tous ses semblables, et ne cherchant que son bonheur particulier, s'occupe peu que son voisin soit heureux et libre ou non. Et là serait sans doute la défaite de la résistance à l'oppression, ce qu'il appelle l'indifférence. Le 26 Germinal, Saint-Just reprend « Le fédéralisme ne consiste pas seulement dans un gouvernement divisé, mais dans un peuple divisé. L'unité ne consiste pas seulement dans celle de tous les intérêts et de tous les rapports des citoyens. Vous êtes des bêtes féroces, vous qui divisez les habitants d'une république et tracez un mur semblable à celui de la Chine autour de toutes les peuplades. Vous êtes des sauvages, vous qui isolez la société d'elle-même. Bientôt, les Français n'auraient plus parlé la même langue. Il s'est fait, depuis quelque temps, peu de mariages éloignés, chaque maison étant, pour ainsi dire, une société à part. » De ce fait, si chaque maison est une société à part, si chaque communauté d'habitants est indifférente à ce qui se passe à l'extérieur de sa communauté, alors quelque chose de la souveraineté populaire nationale a failli, n'existe plus. Et que réparer les crimes des factions, c'est faire en sorte que cette communauté soit réinstituée et qu'effectivement il y ait la possibilité de réinventer une communauté d'amis. Cette communauté d'amis, il se trouve qu'elle est supposée effectivement fournir la solidité d'une république qui, du point de vue de Saint-Just, n'est pas dans ce qu'on avait cru. Et dans ce qu'ils avaient cru, ils avaient cru, en particulier avec Robespierre, que la solidité d'une république pouvait être dans ses défenseurs. Défendre la République, être quelqu'un qui passe son temps à expliquer, comme Robespierre a pu le faire, comme Saint-Just lui-même a pu le faire, comme Billaud-Varenne a pu le faire, ne suffit pas. Et en particulier, ces défenseurs de la République ou ces défenseurs de la Révolution sont de toute manière toujours en danger et toujours fragiles. Et il souligne, eh bien, qu'il y a des vérités tristes, c'est que dans l'histoire de l'humanité, eh bien, les véritables héros, ceux qui ont cherché à être les défenseurs de la République, ont toujours été attaqués et même assassinés. Et il cite Marat, Scipion, les Gracques, et on pourrait ajouter aujourd'hui peut-être Chokri Belaïd, Moïse Ben Brahmi. C'est sans doute pas fini, il y a bien quelque chose qui se joue. Et Saint-Just parle alors d'une horreur secrète face à ces vérités tristes. Et il affirme que les institutions civiles, et en particulier cette communauté des affections, doit faire en sorte que on puisse enchaîner le crime. Et donc que la solidité d'une république ne soit pas dans la capacité de quelques individus à la défendre, mais soit inscrite dans le tissage sensible de chacun des citoyens et qu'on retrouve donc cette capacité vigilante de chacun. Cette communauté des affections est identifiée à la patrie et serait la réalisation d'une série de choses qui peuvent nous paraître aujourd'hui désuètes, mais je les cite comme telles: l'union dans les familles, l'amitié parmi les citoyens, l'intérêt public à la place de tous les autres intérêts, rendre la nature et l'innocence à la passion de tous les cœurs, former une patrie, substituer l'ascendant des mœurs à l'ascendant des hommes, faire en sorte qu'un enfant puisse résister à l'oppression d'un homme unique. Tout n'est pas désuet. Il s'agit bien, avec les institutions civiles, de résister à l'oppression, y compris à l'oppression des lois oppressives. Qu'est-ce que c'est que ces affections si on rentre plus avant dans le texte de Saint-Just? Son texte sur les institutions républicaines de 1793-94 affirme que les affections ne sont plus naturelles. Elles doivent être définies comme des principes institutionnels. Je le cite, « Il est essentiel, dans les révolutions où la perversité joue un si grand rôle, de prononcer nettement tous les principes, toutes les définitions. » Tous les principes, toutes les définitions. Et Saint-Just s'emploie ainsi à définir les affections républicaines, garantes de la communauté. Ce mot « affection », vous le savez, connaît dans la langue française au moins trois sens. Un premier sens qui renvoie aux notions d'affect, d'émotion, de passion, de sentiment. Le fondement sensible. Un second sens qui renvoie à la maladie. Un troisième qui est souvent celui des révolutionnaires, sentiment tendre qui attache à quelqu'un et par extension ceux qui sont attachés entre eux par ce sentiment tendre. C'est cette dernière notion d'affection qu'on retrouve parmi la liste des institutions civiles à fabriquer et à définir. Sous l'intertitre « affection », Saint-Just évoque l'amitié entre les hommes et l'amour entre un homme et une femme. L'amitié prend alors un caractère public et sacré, puisqu'elle est déclarée chaque année dans le temple au mois de Ventôse, et que celui qui ne croit pas à l'amitié ou qui n'a pas d'amis est banni. Cette sacralité est encore signifiée dans une proximité amicale qui engage jusqu'à la mort. Je le cite, « Les amis sont placés les uns auprès des autres dans les combats. Ceux qui sont restés amis toute leur vie sont enfermés dans le même tombeau. Enfin, les amis portent le deuil les uns des autres et préparent les obsèques les uns des autres, sont tuteurs des enfants en cas de divorce ou de la mort du père. Pourtant, ce lien extrêmement exigeant peut être rompu, mais pour des raisons qui doivent être explicables publiquement. L'amitié est un engagement public, je le cite. Si un homme quitte un ami, il est tenu de rendre compte au peuple dans le temple des motifs qui le lui ont fait quitter. Enfin, ce sentiment social crée une responsabilité commune. Si un homme commet un crime, ses amis sont bannis. » On peut trouver ça extrêmement effrayant. Je crois qu'il y a effectivement un peu d'effroi à lire ces choses-là. Mais ce qui est à entendre dans le contexte, c'est la nécessité de rétablir la non-indifférence, et une non-indifférence qui ne pourrait pas se défaire d'une manière, je dirais, par la simple fragilité de l'usure du temps. On est dans une logique où il s'agit de restituer la logique qui est celle de la résistance à l'oppression dans la Déclaration des droits de 1793. Où on assiste d'une manière extrêmement radicale à une réévaluation encore plus forte qu'en 1789 de la résistance à l'oppression. Dans cette déclaration de 1793, la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Quand on dit ça, la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme, ça veut dire qu'elle est la clé de voûte du système et que sans résistance à l'oppression, il n'y a plus de droits de l'homme. Ensuite, on affirme, si un seul membre de la société est opprimée, la société est opprimée. Si la société est opprimée, l'ensemble des membres de la société sont opprimés. Lorsque la société est opprimée, l'insurrection est le plus inaliénable des droits et le plus indispensable des devoirs. Et on voit bien que cette logique donner toutes les définitions, préciser, être dans quelque chose qu'on ne croit plus être simplement naturel, à avoir avec ce qui était déjà inscrit dans cette déclaration de 1793, à savoir la réciprocité des actes quand il s'agit de défendre effectivement une logique d'espace politique libre. La liberté a quelque chose qui a à voir avec la réciprocité. L'expression la plus courante, c'est la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres, mais qui veut absolument dire ça. Il n'y a de liberté possible que si la liberté est réciproque. Mais si la liberté est réciproque, l'absence de liberté a aussi des effets de réciprocité. Et c'est pour ça que chacun, combattant pour lui-même, combat pour tous comme conséquence. Vous retrouvez l'énoncé du début sur la patrie et la communauté des affections. Chacun combattant pour sa chaumière, la patrie s'en trouvera défendue. Donc effectivement, l'amitié est bien une institution civile qui fabrique cette réciprocité nécessaire pour que le lien horizontal soit solide, sans qu'on ait besoin de recourir à des lois de contraintes externes. Mais alors, c'est l'institution civile elle-même qui est devenue contraignante et ô combien. Cette réciprocité contraignante, pourtant, n'est pas présente dans une autre affection, qui est l'affection qu'on appelle l'amour entre les hommes et les femmes, qui peut, lui, demeurer privé, tant que la filiation n'est pas en jeu. Je cite, « L'homme et la femme qui s'aiment sont époux. S'ils n'ont point d'enfants, ils peuvent tenir leur engagement secret. Mais si l'épouse devient grosse, ils sont tenus de déclarer au magistrat qu'ils sont époux. Nul ne peut troubler l'inclination de son enfant, quelle que soit sa fortune. » Il faut retenir, je crois, de manière forte, cet écart entre amitié publique et amour privé est fondamentalement libre. Libre dans ses choix, est libre car justement hors institution. Seule la filiation est institutionnalisée avec des devoirs entre ascendant et descendant, mais cela n'est pas traité au titre des affections, mais au titre des institutions de l'enfance, de la jeunesse, des écoles, de l'éducation, des institutions sur la mort, sur l'hérédité, sur l'adoption, sur la communauté des époux, en tant qu'il n'y a de communauté qu'entre les époux, mais que cette communauté définie ne concernent pas autre chose que leur bien, et que les époux ne s'unissent point par un contrat, mais par la tendresse, et l'acte de leur union ne constate que leur bien mis en commun, sans aucune clause. Autrement dit, la question de l'amour en tant que tel est exclue de l'institution civile en tant que telle. L'amour entre un homme et une femme n'est donc pas une institution civile, mais ses effets en termes de filiation et de possession nécessitent des institutions civiles. Pourtant, les institutions civiles protectrices sont réclamés malgré tout pour que la liberté au sein de l'amour soit réellement une liberté comme non-domination, une liberté réciproque. Et donc il y a un souci tout à fait ferme de Saint-Just, il y revient régulièrement, où il affirme que cette liberté donc ne doit pas être entravée. Celui qui trompera une fille sera banni. Celui qui frappe une femme est puni de mort. Celui qui a vu frapper une femme et n'a point arrêté celui qui l'a frappé est puni d'un an de détention. Enfin, les femmes ne peuvent pas être censurées. On a souvent tendance à penser que les révolutionnaires ont été d'affreux machistes. Je crois qu'il y a là quelque chose qui permet de récuser en doute cette opinion. Il n'empêche que la notion d'inclination est hors institution, et que de ce point de vue, eh bien, la liberté est complète et que la liberté peut, malgré l'amour, préférer l'indépendance. Je vous cite un passage des fragments d'institutions républicaines tout à fait étonnant, qui n'est pas sans lien avec ce qu'on a entendu hier soir. Et donc je vous le cite en espérant que ce ne sera malgré tout pas trop long. Elle arrivait à pas très lent. Elle entra, l'embrassa, lui pressa la main. Il lui reprocha doucement sa longue absence et son silence. Elle ne répondit rien. Il la conduisit par la main et, arrivé dans son appartement, il lui prodigua les plus tendres caresses. Elle souriait et ne proférait pas une parole. Ils se reposèrent, tous les deux, sur un lit. Elle ne goûta point de plaisir, mais prit beaucoup de part à celui de son ami. Elle passa ses mains sur sa peau autour de son corps. Elle croisa ses jambes sur les siennes. Il lui demanda si elle ne l'aimait plus. Elle l'embrassa et garda un profond silence. « Que j'ouvre ta bouche, ajouta-t-il, pour un baiser. » Elle sourit. Ensuite, il lui fit reproche de ce qu'elle ne lui avait point écrit. « Je devais venir, » répondit-elle. « Autrefois, quand tu venais, tu m'apportais plusieurs lettres. » Elle ne répondit rien. « Je te fuirais, » lui dit-elle. Elle ne dit mot. Pourquoi es-tu aussi triste ? Parce que tu m'as dit que tu me fuirais. Tu étais triste auparavant. » Elle ne dit rien. Mais ajouta-t-il, « Par où finirons-nous ? Il faudra nous séparer. Tu ne penses donc point à l'avenir ? » ?»« Je n'y pense plus. Je ne sais pourquoi. Il me semble que je te verrai toujours ici. Tu deviens indifférente. Mais pourquoi tant de tristesse ? Tu veux que je te suive. Je ne pourrai jamais m'y résoudre. Je te le promettrai pour t'engager à faire ton avancement. Nous verrons ensuite. Mais je ne pourrai jamais m'y résoudre. » Donc on a là quelque chose qui montre effectivement sur un mode qui n'est pas tout à fait le mode de la définition qu'on a pu voir pour l'amitié, ce qu'il en est de cette liberté du lien d'une communauté amoureuse. Il n'empêche que cette notion d'inclination, eh bien, donc hors institution, et qu'à ce titre, l'amour entre un homme et une femme serait le lieu où l'on retrouve le noyau dur de la pensée de Saint-Just. Si les affections ont besoin de redevenir civiles, car elles ont été ensauvagées par l'histoire, l'amour n'est pas un sentiment historique, mais naturel, une inclination qui ne s'explique pas, mais se constate. De ce fait, cette communauté des affections, comme communauté régie par des institutions civiles, est aussi une porte d'entrée pour des affections naturelles. Chacun défend ce qu'il aime, des manières d'être au monde, des lieux, un peuple, ses amis, sa femme, ses enfants. Et de fait, on retrouve dans les fragments d'institutions républicaines des passages entiers du texte que j'évoquais tout à l'heure, beaucoup plus optimiste, de la nature, qui date de 92, au sein même des fragments d'institutions républicaines. Il s'agit, dans le temps qui reste imparti, donc qui est très bref, de vous faire entendre ce qu'il en est de ce que je disais tout à l'heure, en faisant entendre Saint-Just, on a vécu comme des sauvages. Ce sont des sauvages ceux qui dressent des murs entre les peuplades, ceux qui dressent des murs entre les communautés, qui font que l'intérêt commun ou l'intérêt général n'est plus la priorité. Et il affirme, effectivement, quand il se cite lui-même dans le texte des fragments d'institutions républicaines en citant de la nature, eh bien, il revient sur ce que serait une société d'affection naturelle. Les sentiments de l'âme sont, dit-il, le présent de la nature et le principe de la vie sociale. Lorsque les affects font souffrir, ils sont non plus sentiments mais passions. Je le cite, fruit de l'usurpation et de la vie sauvage. Il faut entendre, non pas de la vie sauvage en tant qu'elle serait antérieure à la société, mais de la vie régie par un pacte, une convention. Car en effet, pour Saint-Just, la nature finit où la convention commence. Et il appelle alors sauvage les peuples, les hommes agrégés par la domination et l'esclavage. Dans ce sens, du point de vue de Saint-Just, la terre n'est maintenant peuplée que de sauvages. On retrouve cette expression sauvage dans le texte du 23 Ventose, on a vécu comme des sauvages, mais aussi les bêtes féroces dans celui du 26 Germinal. Et il affirme ainsi que ce n'est pas dans la manière de voir accoutumée qui consiste à croire que la vie naturelle était la vie sauvage, alors que ce qui est sauvage et cruel vient de la domination. L'état social ne dérive point de la convention. Et l'art d'établir une société par un pacte ou par les modifications de la force est l'art même de détruire la société. Nous cherchons la nature et nous vivons armés comme des sauvages furieux. Pour Saint-Just, la société est donc bien un état naturel à retrouver et on peut considérer de ce point de vue-là que ces fameuses institutions civiles contraignantes seraient une sorte de désert, le désert qu'il faut traverser pouvoir entrer à nouveau dans cette société naturelle. Un désert à traverser contraignant, difficile, où on peut effectivement se décourager, abandonner, mais que s'il y a amour des lois nécessaires, il faut que ce soit l'amour de lois de rapport naturel, de rapports qui sont en fait les lois des besoins et des affections, où, dit-il, selon la nature de leur intelligence ou de leur sensibilité, les animaux plus ou moins s'associent. Et il pointe résolument le rôle des affects dans le faire société, en donnant à ces affections le rôle d'aimants, qui font que les hommes ne sont pas solitaires, isolés. Il affirme que l'humanité et l'humanisation ne passent plus par les seules compétences d'usage de la raison. Et effectivement, Saint-Just, depuis 1793, ne cesse de marteler « Il faut honorer l'esprit, mais il faut s'appuyer sur le cœur ». Évidemment, le cœur qui permet cette fameuse raison sensible, qui permet de résister à l'oppression, qui permet d'être vigilant et de choisir des lois qui sont non oppressives. Les hommes forment donc une société naturelle qui repose sur leur indépendance, mais tous ensemble forment un corps ou une force politique contre la conquête. L'état social est le rapport des hommes entre eux, l'état politique est le rapport d'un peuple avec un autre peuple. On a là quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant, et je pense que je vais finir sur ces choses-là, à savoir que cette question d'une ressaisie du socius naturel, Saint-Just affirme qu'il n'est possible qu'à l'intérieur de l'espace qui est en train de faire une révolution. Et il affirme qu'il n'est pas possible d'imaginer que d'autres peuples vont avoir le même rythme pour pouvoir effectivement inventer une société qui ne soit pas une société oppressive. Et là, on est dans cette question de la rythmicité qui a été évoquée avant-hier et de la difficulté à faire en sorte, effectivement, que quelque chose se diffuse à l'échelle de l'humanité. Pourtant, l'objectif de Saint-Just, c'est bien effectivement que quelque chose se diffuse, mais il souhaite limiter ses objectifs de manière à ce qu'effectivement, eh bien, on réussisse à inventer au moins un espace où on n'ait besoin absolument pas de la force, et où on ait réinventé la capacité d'inclination et la capacité à l'indépendance de chacun pour faire en sorte que chaque communauté ne soit pas une communauté de moines cénobites, mais bien une communauté d'ermites, c'est-à-dire une communauté de personnes capables individuellement de soutenir leur liberté et qui ne se réunissent que pour pouvoir produire les conditions de possibilité de leur vivre en commun, mais qui n'ont pas un besoin constant les uns des autres, mais cette capacité, effectivement, à simplement aller vers les autres par inclination, ce qui, normalement, produirait l'absence de rapport de force et produirait une société harmonieuse. Mais cependant, cette volonté de resynchroniser, finalement, l'espace public français, c'est ça qu'il appelle la patrie, et bien même cette synchronie-là, dans une certaine mesure, la veille du 9 Thermidor, les quelques semaines qui séparent le 9 Thermidor de, sans doute, puisqu'on n'a pas de date précise de ses écrits, il affirme: la force ne fait ni raison ni droit, mais il est peut-être impossible de s'en passer pour faire respecter le droit et la raison. Pourtant, je ne m'arrêterai pas sur ce pessimisme, mais bien sur l'effort de Saint-Just pour le déjouer lui-même. Il invente ainsi une anti-loi martiale qu'on peut lire dans le complément au carnet. La loi martiale, c'était la loi qui a été inventée dès décembre 1789, on affirmait que tout groupement de plus de 20 personnes devait était interdit dans l'espace public et qu'il pouvait être dispersé par la force armée à partir du moment où on affirmait la loi martiale, c'est-à-dire où on déployait un drapeau rouge et où on donnait 3 sommations pour que le groupe soit dispersé. C'est cette loi martiale qui produit par exemple la fusillade du 17 juillet 1791. Mais c'est aussi cette loi martiale qui a été utilisée de manière extrêmement constante contre les fameuses taxations sur les marchés, c'est-à-dire la manière dont les paysans, dont les habitants des communes, les fameuses communes dont je parlais tout à l'heure, cherchaient à obtenir le juste prix des denrées de manière à pouvoir simplement subvenir à leurs besoins. Donc taxer les prix, c'est donner le juste prix. Or, nous dit Saint-Just, ce juste prix et cette capacité à taxer et cette capacité à penser l'économie, c'est en fait mettre en adéquation et donc en rythmie aussi la question des mœurs et la question de l'économie. Et je ne vais pas avoir le temps de développer la question économique, mais Saint-Just est un des rares auteurs de la période révolutionnaire qui ne dissocie jamais l'économie et la question des mœurs. Je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est pour ça que je me permets de ne pas le développer maintenant. Je l'ai évoqué en disant, voilà, on ne consomme plus que sur son territoire. Et en conséquence, les mariages se font dans les mêmes communes, dans les mêmes maisons. Et donc la question anthropologique et la question économique, du point de vue de Saint-Just, c'est la même question. La question économique, c'est la question de la circulation. Circulation des valeurs, circulation des biens, circulation des personnes, et capacité à produire la multiplicité des inclinations des uns vers les autres, et non pas la réduction d'une inclination qui serait produite par la seule familiarité qui a été évoquée hier, qui serait une familiarité ethnique, une familiarité familiale, mais une familiarité qui serait au contraire la familiarité de ces fameuses affections. Je voudrais donc évoquer pour finir cette fameuse anti-loi martiale qui commence ainsi. Lorsque les autorités publiques seront impuissantes contre l'attroupement et la violence du peuple, le drapeau déployé au milieu de la place publique imposera la paix et sera le signal que le peuple va délibérer. Le peuple s'assemblera paisiblement et fera parvenir sa délibération aux autorités. Elle sera transmise au pouvoir législatif. Si quelqu'un trouble la paix de la délibération du peuple le fera arrêter et le livrera aux autorités constituées. On a là, finalement, un moment particulièrement intéressant parce que, il y a une sorte de réconciliation entre la possibilité de réguler la violence et la nécessité d'utiliser la force pour réguler la violence. De la même manière que les institutions civiles, à commencer par l'amitié que vous avez entendue si contraignante. Ces institutions civiles sont des entames à la liberté pour entrer dans la liberté. L'usage de la force sera la nécessité pour pouvoir entrer dans la délibération capable de se passer de la force. Dans une certaine mesure, l'idéal de Saint-Just est un idéal d'anarchie. Un idéal où la nature, c'est la capacité à ne plus avoir de tête, de ne plus avoir de gens qui dirigent, de ne plus avoir nécessité de gouvernement. Sinon, pour pouvoir empêcher la conquête, empêcher la guerre, ou en tout cas se défendre en cas de guerre, et où là, effectivement, on réinstaure l'usage de la raison et on réinstaure la nécessité de la stratégie. Savoir délibérer paisiblement et savoir préciser l'usage de la force nécessaire seraient alors les signes qu'une communauté des affections a bien été tramée par un souverain peuple enfin redevenu libre. Mais nous, qui ne délibérons point ou si peu, ne sommes-nous pas des sauvages policés ?